Bonjour à tous. Après la décision du Conseil d'État hier, les juges ont suspendu l'arrêté d'interdiction du burkini pris par la commune de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes au motif qu'il n'y a pas de risque de trouble à l'ordre public et qu'il s'agit d'un arrêté portant atteinte aux libertés fondamentales. Pour autant, aujourd'hui, la polémique ne s'éteint pas. La décision devait faire jurisprudence, mais certains maires veulent maintenir des arrêtés similaires à Cisco en Haute-Corse, par exemple, ou à Fréjus. À droite, on réclame une loi plus ferme sur le port de signes religieux dans l'espace public. Bref, cette décision ne clôt pas le débat politique, Frédéric Seyss.
Au contraire, même après cette décision juridique, chaque camp veut reprendre l'initiative politique. À commencer par le Premier ministre socialiste Manuel Valls, il avait soutenu les maires qui avaient décidé de cette interdiction du burkini sur leur plage. Il estime désormais que le débat doit continuer et le Premier ministre réaffirme que le burkini est un vêtement qui symbolise l'islam politique, je cite, et qui met en danger la cohésion de la nation. Dans une tribune publiée sur son compte Facebook, Manuel Valls insiste « Rester silencieux, ce serait un petit renoncement, une démission de plus. Le chef du gouvernement est fragilisé par cette polémique. Deux de ses ministres ont pris des positions inverses aux siennes en jugeant inefficaces ou immoraux les arrêtés anti-burkini. Dans une voix plus médiane, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, espère que cette décision va apporter un apaisement. Mais la droite, elle, ne compte pas s'arrêter là. Elle va déposer début septembre un projet de loi pour faire interdire au niveau national le burkini. Un projet de loi qui n'a aucune chance de passer, mais toutes les chances d'embarrasser encore un peu plus le gouvernement. De son côté, le Front National réclame, lui, une loi d'interdiction de l'ensemble des signes religieux ostentatoires dans l'espace public, comme un léger avant-goût de la campagne présidentielle qui s'annonce.
Et Alain Juppé se dit lui opposé à ce qu'il appelle une loi de circonstance dictée par les polémiques médiatiques. Nous serions bien inspirés d'arrêter de jeter de l'huile sur le feu, affirme au Figaro le maire de Bordeaux. Le groupe Alstom décroche son plus gros contrat aux États-Unis. Une commande de 28 TGV pour renouveler la flotte de trains sur la ligne la plus dense du pays, celle qui relie Boston à Washington. Un contrat de près de 2 milliards d'euros. Encore raté, les pourparlers entre les producteurs de lait et le géant laitier Lactalis ont tourné court hier soir. Toujours pas d'entente sur un montant qui permettrait aux éleveurs de mieux supporter leurs coûts de production. Ils réclament une hausse du prix de rachat du lait par le transformateur. Les syndicats agricoles ont commencé toutefois à lever le camp devant le siège de Lactalis en Mayenne. Ils s'orientent plutôt désormais vers une stratégie nationale de négociation. À l'étranger, jour de deuil national en Italie. On célèbre les funérailles de plusieurs victimes du séisme survenu mercredi dans le centre de la péninsule. Le dernier bilan fait état de 281 morts. Les secouristes continuent de fouiller les décombres, mais plus aucun survivant n'a été retrouvé depuis jeudi. L'heure du duel présidentiel a sonné au Gabon, car si une dizaine de candidats se présentent à cette élection, on s'attend surtout à un combat entre le chef d'État sortant, Ali Bongo, et son principal adversaire, Jean Ping, 73 ans, ancienne figure de la politique gabonaise, passée il y a 2 ans dans l'opposition. Plus de 600 000 électeurs sont appelés aux urnes pour ce scrutin à un seul tour. On voit les enjeux avec Nabila Hamel.
Aux yeux de ses opposants, l'ombre tutélaire du père ne s'efface pas. Pourtant, Ali Bongo se proclame d'emblée le candidat du changement et met en avant les réalisations de son septennat, routes, hôpitaux. Il s'est entouré d'une armée de jeunes conseillers et considère ses adversaires comme des hommes du passé. Dans un pays qui était considéré comme un pilier de ce que l'on appelle la France-Afrique, Ali Bongo mise sur une diversification de l'économie et des investissements étrangers. Face à lui, le concurrent qui peut lui faire de l'ombre est Jean Ping. Il s'est rallié le soutien de deux poids lourds de la politique gabonaise. Ce cacique dénonce la pauvreté de son pays, qui possède pourtant des ressources pétrolières, minières et forestières. Jean Ping promet de libérer le Gabon de la dictature. Le slogan fait sourire ses détracteurs, car plusieurs fois ministre, il a été pendant 20 ans au cœur même du régime Bongo père. Mais Jean Ping ne se démonte pas et se permet même cette répartie. C'est peut-être parce que l'on a fait partie du système qu'on est une partie de la solution. En tout cas, les deux principaux candidats se connaissent aussi pour leurs liens familiaux. Jean Ping, un métis sino-gabonais, était le beau-frère d'Ali Bongo. Outre ces deux favoris, 9 autres candidats sont en lice pour un scrutin à un tour.
Et les bureaux de vote viennent d'ouvrir au Gabon sous l'œil attentif de dizaines d'observateurs européens et africains déployés dans le pays pour suivre ces opérations de vote et le dépouillement. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné hier soir la récente série de tirs de missiles de la Corée du Nord et promis des mesures en réponse à ces lancements, sans plus de détails. Un missile balistique nord-coréen tiré mercredi depuis un sous-marin a parcouru 500 km et est entré dans la zone d'identification de défense aérienne du Japon. La police du Bangladesh annonce avoir abattu le cerveau de l'attaque du café de Dhaka. Le 1er juillet dernier, 5 hommes avaient pris d'assaut un restaurant de la capitale, tuant 20 otages, dont 18 étrangers. Lors d'une opération ce samedi au sud de Dhaka, la police dit avoir abattu 3 djihadistes, dont celui qu'elle considère responsable de l'attaque de juillet. Au deuxième jour du procès en destitution de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, son mentor politique, Lula, a été inculpé de corruption passive, blanchiment d'argent, dans le cadre de l'enquête sur le scandale de corruption au sein du géant pétrolier d'État Petrobras. En Inde, où les luttes pour les droits des femmes ont encore du chemin à parcourir, la haute cour de Bombay vient d'autoriser la gente féminine à pénétrer dans l'un des mausolées musulmans les plus vénérés du pays, d'où elles étaient jusqu'à présent proscrites sous prétexte d'être impures. La justice indienne a considéré qu'il n'y avait aucune base religieuse à une telle discrimination. Le récit de notre correspondant en Inde, Sébastien Farsi.
C'est le mausolée musulman le plus emblématique de Bombay, posé au large dans la baie et relié à la terre par une longue passerelle. Depuis 4 ans, les responsables du lieu ont décidé d'interdire les femmes en âge de procréer, âgées donc de 15 à 50 ans, d'y entrer. Ceci afin, disent-ils, de ne pas souiller la tombe du saint Hajj Ali qui s'y trouve. Un groupe de militantes musulmanes a contesté cette règle devant la cour d'appel de Bombay qui leur a donné raison. L'État indien s'immisce très rarement dans les pratiques religieuses, voire les favorise, mais cette fois, les magistrats ont jugé que cette discrimination était inconstitutionnelle et surtout qu'il n'y avait aucune preuve qu'elle était dictée par le Coran. Les autorités du mausolée vont faire appel auprès de la Cour suprême, mais les militantes se réjouissent déjà de cette nouvelle victoire. Il y a 4 mois, d'autres croyantes ont brisé une discrimination similaire. C'était dans un sanctuaire hindou de la région de Bombay où il leur était interdit d'entrer depuis plus de 400 ans.
Le récit en Inde de Sébastien Farsi. La météo en France, vigilance orange canicule dans 43 départements. La vague de chaleur s'étend vers le nord-est. Les températures atteindront partout cet après-midi de 32 à 38 degrés.